Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec le mythe d'Œdipe et la question de l'enfance maltraitée. Ces dernières semaines, nous découvrons les violences subies par les enfants dans l'affaire Bétaram. Tout d'abord, il me paraît évident qu'il ne s'agit pas d'une découverte, mais d'un déni et d'un aveuglement collectif. Il y a quelques années déjà, j'ai lu l'autobiographie de Stanislaw Tomkiewicz intitulée « L'adolescence volée ». En voici un extrait intitulé « La lutte contre les violences institutionnelles est toujours d'actualité ». Quelques années plus tôt, mon ami Pierre Strauss avait introduit en France la notion d'enfant maltraité. En 1979, il me proposa de devenir fondateur de l'AFREM, section française de la Société internationale pour la défense de l'enfant maltraité. Curieuse coïncidence, je venais d'être interpellée par une enseignante de Liévin qui m'avait raconté des horreurs concernant un internat tenu par un curé intégriste et néo-nazi. Je me rappelle encore cette première réunion de l'AFREM dans une salle remplie à ras-bord où assistantes sociales, éducateurs et psychiatres n'avaient à la bouche que la maltraitance intrafamiliale. Cette enseignante, mon collaborateur Pascal Vivet et moi, qui la soutenions, étions les seuls à oser parler d'une institution maltraitante. Oh surprise ! Le thème du 3e congrès international, premier de la section française, ne fut pas, comme d'habitude, la maltraitance familiale, mais les enfants maltraités en dehors du milieu familial. C'est donc tout naturellement que je suis devenu le responsable de la phase préparatoire de cette grande réunion. Le sujet des violences institutionnelles est devenu central dans mon travail et mon cri d'indignation mal reçu en 1978 s'est transformé en une dizaine d'articles, conférences, interviews, réputés sérieux, dont le premier a été publié en français aux États-Unis. À l'occasion de ce congrès, j'ai organisé un petit groupe de travailleurs sociaux qui s'est lancé dans une véritable recherche, action militante. Il s'agissait de décrire les institutions qui nous paraissaient les plus violentes et qu'on commençait à nous signaler d'un peu partout. Institutions pour déficients mentaux où régnait de manière sectaire le courant béhavioriste, maisons où des jeunes filles étaient victimes d'une morale et de méthodes éducatives dignes du 19e siècle, plus rarement des foyers de la DAS où les violences étaient patentes. Ce travail théorique et pratique a duré 10 ans pour aboutir à la parution de notre livre « Aimez mal, châtiez bien ». Ces multiples rencontres m'ont permis de mieux comprendre les problèmes sans me limiter aux cas les plus caricaturaux. Il ne s'agissait plus de condamner, mais de rendre des professionnels conscients de la violence de leur action, de prévenir des dérapages, voire d'aider des institutions qui nous en faisaient elles-mêmes la demande à réfléchir sur cette question. La notion de violence s'est élargie aux négligences, insuffisances et dysfonctionnements qui rendent les institutions antithérapeutiques et entravent l'épanouissement des enfants qui y sont placés. Plus loin, il parle de sa propre expérience à l'école. J'ai cru pendant longtemps que j'avais eu de la chance avec l'école. J'en ai fait beaucoup moins que la moyenne des universitaires français. En effet, mes parents, en bourgeois un peu frileux, avaient préféré donner, jusqu'à l'âge de 9 ans, à leur petit dernier, des précepteurs à la maison. Je n'ai donc connu ni le joyeux choc de la maternelle, ni celui de l'entrée à la grande école à l'âge de raison. À 9 ans, peut-être étais-je plus résistant. Je me rappelle pourtant encore l'air féroce du professeur de dessin chargé d'évaluer mon niveau qui, après m'avoir demandé de dessiner un canard, avait déclaré « On ne fera rien de cet enfant, son canard ressemble à un avion ». Il m'a fallu 50 ans pour oser redessiner un canard. Mon autre chance fut la guerre. J'ai quitté officiellement l'école à la fin du collège. Mes études, ensuite, ont été clandestines. Ces 6 ans d'école ont été une expérience si douloureuse que j'avoue avec honte avoir accueilli presque avec joie l'annonce de la guerre qui mettait fin à ma scolarité le 1er septembre 1939. Tomkevitch n'est pas évidemment le seul à faire état des violences systémiques à l'école. Pour mieux comprendre pourquoi nous nous employons collectivement à silencier toutes celles et tous ceux qui tentent de comprendre et d'empêcher les violences systémiques envers les enfants, je vais m'aider du mythe d'Oedipe. Mais qu'est-ce qu'un mythe ? Voici la définition qu'en fait le dictionnaire historique de la langue française. Mythe, nom masculin, est emprunté tardivement, 1803, au bas latin, mythos, fable, récit fabuleux. Emprunt au grec mutos, qui désigne d'abord suite de paroles qui ont un sens, d'où discours-propos, souvent associé à épos, qui désigne le mot, la parole, épique, épopée. Mutos désigne aussi le contenu des paroles, la vie, la pensée, mais il tend à se spécialiser au sens de fiction, mythe, sujet d'une tragédie. Le passage sémantique qui conduit de l'idée de parole dont le sens importe à celle d'histoire inventée récit est réalisé par ses nombreux composés. Le mot est d'origine obscure. On pense à un terme populaire et expressif issu de l'onomatopée mu, celle du latin mutus, mutum, qui ont donné muet et mot. Mais le sens des plus anciens textes ne correspond pas à cette hypothèse. La frontière ténue entre les mots muet, mot et mythe me paraît symboliquement intéressante. C'est peut-être que les mythes contiennent des sens et des mots cachés. Tout le monde connaît l'histoire d'Oedipe. Voici le résumé qu'en fait l'ouvrage Antigone et le mythe d'Oedipe, publié chez Hatier. Laios devient roi de Thèbes après la mort d'Amphion et Zétos, et il épouse Jocaste, mais l'oracle de Delphes leur prédit que leur fils, s'ils en ont un, tuera son père et épousera sa mère, causant ainsi la perte du royaume. Aussi, lorsque Jocaste donne naissance à un fils, Laios décide de l'abandonner dans la montagne après lui avoir percé les pieds afin de les attacher. Trouvé par un berger, il est recueilli par Polybe et Mérope, roi et reine de Corinthe, qui le prénomment Oedipe, pied enflé. Devenu adulte, Oedipe consulte à son tour l'oracle qui lui fait la même prédiction que celle faite par le passé à Laios et Jocaste. Le jeune homme quitte alors Corinthe pour s'éloigner de ceux qu'il pense être ses parents et échapper ainsi à son destin. Sur la route, il croise à un carrefour un voyageur qui refuse de lui céder le passage. Une dispute éclate et Oedipe tue l'homme qui n'est autre que Laios, son véritable père. Ensuite, toujours sur cette même route, Oedipe rencontre le sphinx, résout l'énigme et le tue. Oedipe devient le roi de la cité et épouse Jocaste, sa véritable mère, réalisant ainsi la prédiction. De ce mariage naissent 2 garçons, Étéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Plus tard, les dieux envoient la peste sur Thèbes et l'oracle annonce que celle-ci ne cessera que lorsque l'assassin de Laios aura été retrouvé. Oedipe finit par découvrir que c'est lui qui a tué Laios, son père, et épousé sa mère. Jocaste se pend, Oedipe se crève les yeux et s'enfuit de Thèbes, guidé par Antigone. Dès le début de la pièce, dans la version de Sophocle, c'est-à-dire la première version que nous connaissons, Tirésias, le fameux oracle, dit tout à Oedipe. Je pars, mais je dirai d'abord ce pourquoi je suis venu. Ton visage ne m'effraie pas, ce n'est pas toi qui peux me perdre, je te le dis en face. L'homme que tu cherches depuis quelque temps, avec toutes ses menaces, ses proclamations sur Laios assassiné, cet homme est ici même. On le croit un étranger fixé dans le pays. Il se révélera un Thébain authentique. et ce n'est pas cette aventure qui lui procurera grand joie. Il y voyait. De ce jour, il sera aveugle. Il était riche. Il mendiera. Et, tâtant sa route devant lui avec son bâton, il prendra le chemin de la terre étrangère. Et, du même coup, il se révélera père et frère, à la fois des fils qui l'entouraient, époux et fils ensemble de la femme dont il est né, rival incestueux aussi bien qu'assassin de son propre père. Rentre à présent, médite mes oracles, et, si tu t'assures que je t'ai menti, je veux bien alors que tu dises que j'ignore tout de l'art des devins. » Œdipe passe le reste de la pièce à comprendre ce qu'il vient d'entendre pour la première fois. On sait comment Freud a repris ce mythe à son compte avec le complexe d'Œdipe, qui se résume par « Tout petit garçon, vers 4 ans, veut épouser sa mère et tuer son père. » Évidemment, le complexe d'Œdipe est symbolique. L'enfant ne passe pas à l'acte, sauf s'il est dément. Cela renvoie à l'idée que c'est l'enfant le coupable, y compris de l'inceste. Il l'a bien cherché. On sait comment les parents et les adultes incestueux prétendent avoir été séduits par un enfant. Et si on reprenait les choses à l'endroit, comme le fait Wajdi Mouad, notamment dans Ciel. Vous nous écoutez, mais vous n'entendez rien. Vous vous asseyez à vos fenêtres, dans vos mains des bouchées d'enfance, miettes à jeter aux rats, pourriture, pourriture. Où sont les bêtes ? Perdus, perdus. Où sont les vivants ? Perdus, égarés. Où sont les paysages ? Perdus, effacés, raptés. Où sont les hommes ? Brûlés, calcinés. Tout cela dévoré. Lambeaux entre les dents, blanchis au nitrate des morales, brossés à la pâte fluorée des cultures, gencives passées au fil soyeux de nos vies. Sacrifiés, sacrifiés, bonbons mentholés, vous nous sucez. Enfantivores, vous êtes l'haleine de l'histoire. Et on appelle cela un état ? Vainqueur, sacrificateur, on appelle cela un état ? Vous voyez le sang qui ordonne qu'il soit versé ? Les pères, qui l'a versé ? Les fils, tout homme qui tue un homme est un fils qui tue un fils. Nécessairement, horrible, nécessairement, tout sang d'homme qui tache des mains d'homme, nécessairement, horrible, nécessairement, est le sang d'un fils qui tache les mains d'un fils. Calme-toi, soumets-toi, obéis-moi. Et si c'était l'enfant la victime, celle à qui on a menti, qu'on a voulu tuer dès sa naissance, et si c'était Œdipe qui était victime d'inceste ? Il suffit de lire la manière dont Jocaste refuse qu'il connaisse la vérité pour s'en convaincre. C'est toujours dans Œdipe roi de Sophocle. Œdipe. Tu sais, femme, l'homme que tout à l'heure nous désirions voir est celui dont il parle. Jocaste. Et n'importe de qui il parle, n'en est nul souci. De tout ce qu'on t'a dit, va, ne conserve même aucun souvenir. À quoi bon ? Impossible. J'ai déjà saisi trop d'indices pour renoncer désormais à éclaircir mon origine. Non ! Par les dieux, si tu tiens à la vie, non ! N'y songe plus. C'est assez que je souffre, moi. Ne crains donc rien. Va, quand je me révélerai, et fils et petit-fils d'esclaves, tu ne serais pas, toi, une vilaine pour cela. Arrête-toi pourtant, crois-moi, je t'en conjure. Je ne te croirai pas, je veux savoir le vrai. Je sais ce que je dis. Va, mon avis est bon. Eh bien, tes avis m'exaspèrent à la fin. Ah, puisses-tu jamais n'apprendre qui tu es ? Nous comprenons mieux son geste, se crever les yeux pour voir. Sophocle écrit une suite, Œdipe à Colone. Henri Beauchaud, au XXe siècle, reprend ce mythe dans Œdipe sur la route. Voici, extraites de l'écriture et la circonstance, les pages qu'Henri Beauchaud consacre à Œdipe sur la route. Une première question s'est posée à moi. Pourquoi Œdipe a-t-il choisi de s'aveugler ? Cette question à laquelle on peut faire de nombreuses réponses suscite plutôt en moi une autre interrogation. Œdipe peut-il se suicider ? Il faut peut-être s'étonner ici, car la réponse d'un héros antique à un grand et irréparable désastre était le suicide. C'est l'issue que choisit Jocaste, la reine. C'est en vain qu'elle a tenté d'écarter Œdipe de la recherche à tout prix de la vérité pour défendre son propre royaume, qui est celui du principe du plaisir. Œdipe en transgresse les frontières et dévoile aux yeux de tous qu'ils ont été, qu'ils sont, les époux délirants, ainsi que va les nommer Échille. Jocaste est une vraie reine antique, un vrai personnage tragique dont le destin ne peut s'accomplir que dans le triomphe ou la mort. Œdipe ne choisit pas cette voie royale, et l'on peut dire qu'en somme, il ne vole pas si haut. Il risque tout dans la course folle de la tragédie, tout sauf sa vie. Œdipe est un coureur de fond. En s'aveuglant, il joue. Il vit une scène tragique, mais il continue à vivre. C'est pourquoi Œdipe à Colone a dû sans doute poursuivre l'action d'Œdipe roi dans l'œuvre de Sophocle. Œdipe refuse la fin royale de Jocaste et la destinée du héros tragique. Il garde en lui l'espérance et l'acharnement de découvrir un plus de vie dans un plus de sens, comme le font ceux qui entreprennent leur analyse. Les malades psychiques, comme Œdipe, ne voient pas ce qui leur crève les yeux, et c'est en travaillant leur aveuglement par l'analyse qu'ils entreprennent d'aller vers un plus de clairvoyance. Œdipe entreprend avec Antigone un très long voyage. Dans la perspective d'Œdipe roi, ce voyage semble un châtiment, la conséquence de ses erreurs et du piège que lui ont tendu les dieux. Au contraire, dans la perspective d'Œdipe à Colone, il s'agit d'un voyage initiatique où, d'épreuve en épreuve et de découverte en invention, le voyageur s'initie à la nécessité intérieure, s'en inspire et se ressource en elle. Antigone fait le même voyage, et si Œdipe, en arrivant à Colone, est un voyant qui se dirige lui-même vers le lieu de son accomplissement, elle, à son retour à Thèbes, est prête à affronter seule Créon et à mourir pour les lois du cœur qui sont au-dessus de celles de la cité. Au cours de leur long périple, on peut penser qu'ils se parlent, qu'ils s'écoutent, lui, l'irréductible chercheur de la vérité, elle, la fille intraitable d'un père intraitable, comme l'appelle le Coryphée. Ils dialoguent et chacun, en face de lui, trouve à qui parler. Ce dialogue perdu, imaginaire, a été pour moi une source d'inspiration proche de celle dont Gérard de Nerval a dit « La muse est entrée dans mon cœur comme une déesse aux paroles dorées. Elle s'en est échappée comme une pitié en jetant des cris de douleur. » À travers les années, les épreuves, les joies, Œdipe et Antigone parviennent à Colone. Qu'est-ce qui, à travers moi, les appelle en ce lieu ? Je me suis longuement interrogée à ce sujet, et quelque chose qui ressemble à une réponse ou à une découverte tardive a fini par m'apparaître. Ce n'est pas un dieu qui les appelle, car pour moi, ainsi que je l'ai dit dans la circonstance éclatante, ce qu'on peut appeler le côté divin de l'écriture est antérieur à sa naissance et à l'œuvre produite, qui ne se dirige pas vers les dieux, mais vers le plus humain en nous. Ce qui attire Œdipe et Antigone à Athènes, c'est l'écriture. L'écriture qui va les dire, le théâtre qui les fera agir, et celui qui les appelle, c'est Sophocle. Et si la trilogie de Sophocle était la route à suivre pour l'humanité ? Prendre soin de tous les enfants, sortir de l'éducation punitive et les émanciper peut-être en cessant de leur ôter la parole en les nommant enfants, ceux qui ne parlent pas. Faire cesser la violence et sa reproduction, et enterrer tous nos morts, c'est ce que nous dit Antigone, la fille et sœur d'Œdipe, qui sait qu'elle ne peut pas continuer à vivre, maintenant qu'elle sait, mais qu'elle peut sauver l'humanité. Œdipe et Antigone nous montrent la route, à nous de la voir. C'était ma rencontre avec le mythe d'Œdipe pour comprendre les violences systémiques faites aux enfants.